Alors, nous reprenons nos réflexions là où nous les avions abandonnées, mais comme beaucoup de temps a passé, je rappelle tout de même les perspectives de ce cours. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il en est de la pensée politique moderne, disons aujourd'hui, comment elle s'est développée, sur quel point elle a particulièrement insisté. Et pour ce faire, je me suis donné comme référence celle d'Aristote, qui est une référence décisive. Nous n'avons pas étudié Aristote, évidemment, lui-même, mais sous l'angle de sa pensée politique, et encore très rapidement, dans le but de montrer que Aristote reste une référence essentielle, notamment par cette fameuse formule que l'homme est naturellement politique. Et nous avons compris que pour lui, la cité, c'est-à-dire le regroupement organisé des hommes sous des lois et des mœurs, va de soi. Et c'est en ce sens qu'il parle de la cité et donc de la politique comme naturelle. Sans la cité, l'homme n'est qu'une bête ou un dieu. Cette cité ne va pas sans des mœurs qui structurent l'être humain, qui lui donnent des manières d'agir, et sans des lois dont il importe qu'elle soit juste. Et Aristote a tout un traité que nous n'avons pas analysé, fort important, sur l'idée de justice. Mais le point aussi tout à fait décisif, c'est que dans la cité, c'est l'amitié, donc l'entente entre les individus qui compte particulièrement. Lesquels individus, encore une fois, n'ont de sens qu'à l'intérieur même de la cité, et j'avais souligné à quel point pour Aristote il y a une sorte d'identité entre l'humanité et la citoyenneté, l'homme véritable et l'homme citoyen. Alors, on peut s'interroger après cela pour savoir pour quelles raisons beaucoup de gens n'adhèrent plus, que la philosophie moderne, en ses gros traits, n'adhère plus à cette perspective. Et j'avais souligné quelques aspects parmi bien d'autres, en particulier une nouvelle intelligence ou une autre intelligence du rapport au monde, disons au cosmos, où on pourrait parler aussi de nature, mais le mot est tellement équivoque qu'il vaut peut-être mieux l'éviter. J'avais souligné en particulier l'importance des sciences expérimentales au XVIe siècle, XVIIe siècle, qui bouscule la représentation ancienne du monde, en ce sens que le cosmos n'est plus un ordre de choses, ne témoigne plus d'une sagesse par rapport à laquelle l'homme devrait, sinon s'identifier, du moins se mesurer, mais que le cosmos devient une réalité mathématique, quantifiable, dont on peut calculer justement les mouvements, en particulier par l'astronomie. Cela fait que, loin de pouvoir s'appuyer sur ce cosmos ou cette nature, l'homme est renvoyé à lui-même, selon les formules célèbres de Pascal. Cet espace infini ne me dit rien, sinon il m'effraie, et c'est en moi-même, c'est dans l'homme lui-même, ou pour Pascal, dans la révélation chrétienne, que l'homme peut trouver ses règles de conduite. Donc nous avions vu que le paradigme même de la référence à la nature avait changé, et que, en particulier chez un Machiavel ou chez un Hobbes, la nature n'est plus ce qu'il faut suivre, mais au contraire ce dont il faut se méfier. En particulier dans le cas de Machiavel, elle est le chaos d'une certaine façon, elle est une fortuna capricieuse par rapport à laquelle il faut être toujours en éveil. Dans le cas de Hobbes, on a une lecture beaucoup plus radicale, si je puis dire, puisqu'on va parler d'une condition naturelle de l'homme, et qui, en dehors de toute organisation politique, ne connaîtrait que la crainte mutuelle et la guerre de chacun contre chacun, puisque un des grands thèmes de Hobbes, c'est que précisément ce qui fait l'égalité entre les hommes dans cette condition naturelle, c'est que le plus faible peut tuer le plus fort, et que l'on vit effectivement dans cette crainte mutuelle. Ce qui veut dire par conclusion aussi qu'il est impossible de rester dans cette condition naturelle et qu'il faut bien instituer le politique, donc il ne va plus de soi, il n'est plus naturel, il faut l'instituer de manière artificielle par un art politique qui pour Machiavel relève du prince et qui pour Hobbes relève d'un pacte, je reviendrai un peu sur ce point, d'un pacte que les individus se font les uns avec les autres, se font entre eux pour admettre que, puisqu'il n'y a pas d'entente mutuelle, on va s'en remettre à un souverain, nous reviendrons sur cette idée de souveraineté, qui pourra faire baisser la tension entre les individus et assurer un espace public dans lequel chacun pourra vivre, sinon sans aucune crainte, du moins dans une situation de concorde et de paix. Bon, disons en gros, c'est la perspective philosophique dominante. J'avais ajouté évidemment qu'il y a d'autres facteurs, surtout historiques, et j'avais insisté sur les guerres de religion qui déchirent la chrétienté et qui mettent en pièce, pourrait-on dire, l'idée de l'amitié entre les groupes et les individus, puisque les guerres de religion font que le voisin même peut devenir un ennemi. En outre, ces guerres de religion mettent à bas l'idée de référence à un bien commun, puisqu'on se déchire sur des convictions ultimes, c'est-à-dire sur les conceptions que les uns et les autres se font du bien, et que par conséquent, on ne peut pas se fier à cette référence-là, et qu'il faut au contraire partir, c'est le cas de Hobbes en particulier, de l'individu lui-même, de ses passions, de ses peurs, pour construire un système politique viable qui permette justement aux individus de coexister pacifiquement, de coexister sous la loi, non pas sous le magistère du bien, puisqu'on n'est plus d'accord sur le bien ou sur les finalités ultimes, mais sur la loi, et comme nous allons le voir avec Luther, finalement, sous la crainte du glaive qui est donné au prince ou au souverain. Alors, j'avais aussi insisté sur un point que nous retrouverons, c'est que, évidemment, par rapport à Aristote, la tradition philosophique et occidentale est marquée par le christianisme. C'est un événement massif que nous retrouverons, mais j'avais souligné un seul point, à savoir que le christianisme apporte une différenciation fondamentale entre deux royaumes, les royaumes des hommes et le royaume des cieux, le royaume céleste. Bon, qu'on peut décliner de plusieurs façons, le temporel et le spirituel, l'Église et l'État, mais il y a là un point fondamental par rapport à Aristote, c'est-à-dire que le chrétien ne peut pas considérer que la cité des hommes est sa cité, mais il doit, s'il écoute l'Évangile, entendre qu'il est appelé à une autre cité. Et donc du coup, la citoyenneté terrestre n'est plus ce qui définit purement et simplement l'homme, il est appelé à une destinée éternelle, supra-citoyenne, si l'on peut dire. Et c'est évidemment la mise en place de cette distinction, opposition, conflictuelle plus ou moins, entre deux références, celle de la cité des hommes, qui a ses règles propres, et celle de la cité de Dieu. Voilà, alors j'avais ajouté que il faudrait encore tenir, je crois qu'on s'en était arrêté à peu près là, à l'idée que la tradition chrétienne a spéculé, a réfléchi sur cette relation entre la cité des hommes et la cité de Dieu, et j'avais fait allusion, me semble-t-il, à Saint Augustin, au moins très rapidement. Saint Augustin, évidemment, réfléchit dans un contexte bien connu, qui est la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire l'écroulement de l'Empire romain, de la cité terrestre, alors qu'il était, lui, j'allais dire, romain à 150%, donc pour lui, c'est pas, et je crois que c'est une clé d'interprétation de sa lecture, c'est pas un heureux événement, c'est une catastrophe, n'est-ce pas, qui le touche au plus intime. Et du coup, pour Augustin, la cité des hommes n'est pas quelque chose de vain, même si, une fois ou l'autre, il l'identifie à la cité des ténèbres ou à la cité des démons. Il dit à plusieurs reprises que les chrétiens sont solidaires de tous les autres citoyens quand il y a des famines, des guerres, des oppositions, et qu'au contraire, lorsque la cité est paisible, eh bien, le chrétien en bénéficie autant que les autres. Donc, le chrétien aussi doit contribuer à la prospérité et à la paix de la cité terrestre. Mais la cité terrestre, à nouveau, n'est pas la référence ultime. La référence ultime, c'est le royaume de Dieu. Alors, j'avais esquissé l'idée que, au fond, pour Saint Augustin, il y a deux cités qui sont guidées par deux amours, célèbre formule, deux amours font deux cités, l'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, l'amour de Dieu jusqu'à la haine de soi ou jusqu'au mépris de soi. Donc c'est la charité qui conduit ces deux cités, une charité, disons, d'oblation dans le cas du royaume de Dieu, et une charité qui est souvent entravée et qui se limite à une justice souvent injuste dans le cas de la cité des hommes. J'avais insisté aussi, me semble-t-il, sur cette idée à première vue étrange chez Augustin, à savoir que dans le livre de la Genèse, en tout cas au premier chapitre, il ne semble pas que Dieu ait voulu par nature, c'est-à-dire dans l'acte de création, que l'homme soit dominé par l'homme. Mais ce qui est vu dans la Genèse, c'est que l'homme domine sur la création, les animaux, le ciel et la terre, mais pas sur l'homme. Et donc, dans la mesure même où la politique suppose une subordination, il y a des chefs qui commandent, ou il y a des lois qu'on s'impose, il semble donc que la politique, pour saint Augustin, ne soit pas naturelle, qu'elle n'aille pas de soi, comme dans le cas d'Aristote. Alors, d'où vient la subordination? Bien, je ne vais pas l'avoir dit l'autre jour, c'est le péché. Je n'avais peut-être pas dit que ce n'est pas, et ça c'est assez curieux, ce n'est pas le péché originel, contrairement à ce qu'on fait dire à saint Augustin. Curieusement, dans la cité de Dieu, c'est ce qui se passe autour de Noé et de ses fils. Vous vous souvenez de cet épisode qu'on lit souvent très rapidement, Noé, après avoir vu beaucoup d'eau dans le déluge, est porté plutôt sur la dite bouteille, et il s'enivre un jour et s'endort enivré en se découvrant. Et ses trois fils rentrent dans la chambre, si je puis dire, et découvrent leur père nu, exhibant sa nudité, et évidemment rigolent de voir leur père dans cette situation. Et seul un des frères, ou deux frères plutôt, arrive à reculons pour cacher la nudité de leur frère. Sur quoi Noé se réveille et devient furieux, et leur dit « Vous serez désormais esclaves de vos frères ». Alors saint Augustin s'appuie sur cet élément de manière très curieuse, pour dire, ben voilà, c'est avec le péché concernant cette impudeur, cette impudicité des frères, que l'esclavage est mis en place, la subordination. Mais il développe à partir de cela toute une spéculation, c'est-à-dire qu'à travers le péché, l'homme devient esclave de lui-même. Il vient esclave de ses passions. Au lieu que ce soit l'esprit ou l'âme, comme dit saint Augustin, qui commande au corps, ce sont les passions ou le corps qui commande à l'âme. Et donc, à partir du péché, l'homme est soumis à la passion, à la convoitise, et à la convoitise des autres, bien évidemment. Et donc, par là même, saint Augustin justifie, je dirais, à la fois l'esclavage, qu'est-ce qu'il entendait juste par là, je ne sais pas trop, mais il justifie surtout, finalement, la subordination politique. Alors, voyez le point essentiel, c'est que la subordination politique, déjà pour Augustin, est un outrage à la création, d'une certaine façon. Et on peut dire que la tradition chrétienne, dans beaucoup de ces éléments, va toujours avoir une difficulté. Est-ce que la politique n'est pas toujours plus ou moins entachée d'impureté, d'invalidité, de côté transitoire, elle n'est pas vraiment dans le dessein de Dieu, elle est plus ou moins pourrie, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Voilà. Alors, ça me permet de... Cette tradition augustinienne, évidemment, elle va avoir beaucoup d'influence intellectuelle, théologique et philosophique, jusqu'à nos auteurs, Hobbes en particulier. Alors, j'avais signalé, je crois en passant aussi, que la perspective augustinienne, selon laquelle seule la cité de Dieu apporte la vraie paix, et non pas la cité des hommes, est évidemment remise en question par la guerre de religion elle-même. Puisque le christianisme, qui est censé assurer la paix, apporte au contraire la division, la violence et la guerre. Alors, on pourrait dire que les pensées que nous allons rencontrer, en particulier celles que nous avons déjà rencontrées de Hobbes, vont opérer ce que j'appellerais un retournement de la pensée d'Augustin. C'est-à-dire que, au lieu de dire, comme Augustin, c'est le christianisme ou l'Église qui apporte la véritable paix, on va dire, puisque l'Église n'apporte plus la véritable paix mais la violence, sur quoi peut-on s'appuyer? Eh bien, sur l'État. C'est l'État qui, par le glaive, va apporter, peut-être pas la véritable paix, mais en tout cas, la sécurité. Et vous voyez qu'émerge ici, je dirais, en opposition à la pensée d'Augustin, une valorisation extrême de l'État, et de la souveraineté de l'État. Nous allons revenir là-dessus, bien évidemment. Mais je crois qu'on a de la peine à situer des pensées comme celles de Hobbes, ou même de Locke, ou de, évidemment de Rousseau, donc plus tard, si l'on n'a pas cette référence augustinienne. Alors, j'avais, je crois, aussi envisagé de faire un tout petit passage par Luther, et je crois vous avoir donné un texte. Pour quelle raison? Eh bien, d'abord parce que Luther est tout à fait augustinien, que sa pensée politique va beaucoup marquer les philosophes que nous rencontrons, en particulier Hobbes, qui est quand même luthérien calviniste, et que Luther représente une sorte de, j'allais dire, de référence nécessaire à la pensée politique moderne, en reprenant la thèse des deux royaumes, mais en la durcissant extrêmement. Alors peut-être que vous avez eu le temps, moi je l'espère, de lire le papier que je vous avais donné sur les deux royaumes. Bon, nous allons simplement les lire. Je voudrais simplement rappeler deux ou trois points. Je suppose que vous avez déjà, ou que vous rencontrerez Luther dans des cours de théologie, donc je vais me dispenser de parler de sa théologie. Mais tout de même, on peut dire un mot. Donc Luther, c'est 1483-1546. Luther est un moine augustinien, un moine allemand. C'est un homme extrêmement tourmenté et qui a l'impression que il ne peut pas sortir du piège dans lequel il est pris et qu'il faut qu'il s'ouvre à autre chose que ce que l'Église lui propose en matière d'œuvres, d'ascèse, de bonnes œuvres, etc. Et il a un jour l'illumination, en lisant saint Paul, de la justification par la foi seule. Seule la foi justifie le pécheur, mais par un acte gratuit de Dieu. L'homme ne se sauve pas par ses œuvres. Alors, qu'est-ce que Luther entendait par les œuvres? C'est évidemment les indulgences, les pèlerinages, les choses de ce genre. Mais c'est aussi par l'ascèse. Et il faut pas oublier qu'il était moine. En multipliant l'ascèse, l'homme ne fait que se déchirer un peu plus s'il ne compte pas sur la grâce de Dieu. Donc, un point tout à fait fondamental, seule la grâce justifie et non pas les œuvres au grand sens du mot. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Donc la volonté est d'une certaine façon affectée à ce point par le péché que l'homme n'est pas capable non seulement du salut, mais peut-être même du bien. Bon, première remarque non théologique, l'insistance sur la foi seule, sola gratia, la grâce seule, sola fides, sola scriptura. Deuxième remarque, Luther est tout à fait conscient des tares de l'Église de son temps, et il essaie de réformer cette Église. Bon, et pendant de nombreuses années, avant de passer à une rébellion plus ou moins ouverte, il faut bien le reconnaître, et je crois qu'aujourd'hui on le reconnaît largement, Luther a beaucoup cherché à réformer l'Église du dedans. Et c'est seulement lorsqu'il s'est rendu compte que quelque chose était impossible, qu'il a rompu et qu'il a lui-même été excommunié. Alors, c'est un point très important parce qu'il a écrit une lettre au prince chrétien en 1520, qui est l'année des ruptures, intitulée ainsi « À la noblesse chrétienne de la nation allemande sur l'amendement de l'État chrétien ». Alors, que veut dire ce titre? Il est tout un programme. Je dirais en gros, puisque la papauté et les évêques sont incapables de réformer l'Église, puisqu'on ne peut pas compter sur eux qui sont corrompus jusqu'au cou, eh bien, peut-être pourrait-on attendre des princes chrétiens, c'est-à-dire du pouvoir temporel, on en revient là, on pourrait attendre des princes chrétiens que eux mettent en œuvre une réforme de l'Église. Alors ça, je vais revenir là-dessus, c'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental, puisque Luther va s'appuyer sur les princes chrétiens, donc sur le temporel, pour réformer le spirituel. À quoi il faut ajouter une troisième remarque théologique, donc la première, l'expérience spirituelle fondamentale, la foi seule qui sauve, la deuxième, l'appel à la réforme de l'Église, notamment par le biais des nobles allemands, Et la troisième, c'est l'idée du baptême du sacerdoce universel des fidèles. C'est une très belle formule, mais dont Luther va tirer des conséquences extrêmement radicales, puisqu'il va dire que, au fond, entre, je cite un passage de cette lettre, entre laïcs, prêtres, princes, évêques, et comme ils disent, les catholiques, les papistes, entre le clergé et le sexe et le siècle, il n'existe au fond vraiment aucune autre différence, si ce n'est celle qui provient de la fonction de la tâche et non pas de l'État, car tous appartiennent à l'État ecclésiastique, ils sont vraiment prêtres. Donc, il n'y a plus de distinction fondamentale entre prêtre, évêque, pape et laïc. Tout le monde est prêtre, tout le monde est évêque, tout le monde est pape. Donc, les princes chrétiens sont, en vertu même de leur charge de prince, habilités à réformer les églises, l'église, puisqu'ils sont évêques au même titre que les évêques, et peut-être même plus encore. Je lis encore un autre passage. Un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier, et pourtant tous sont également consacrés prêtres et évêques. Et chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable, afin que, de la sorte, ces tâches multiples concourent à un but commun pour le plus grand bien de l'âme et du corps, tout comme les membres du corps se rendent mutuellement service. Donc, il n'y a plus à proprement parler d'église, structurée par une hiérarchie, il n'y a plus que des laïcs, et parmi les laïcs, les princes, qui sont en charge du temporel, mais bien entendu aussi chargés de protéger l'Église, ou les Églises. Alors, je crois qu'on peut lire ce texte, et puis peut-être pourrait-on discuter. Donc, vous trouveriez le texte que je viens de lire dans ce petit volume de comment s'appelle déjà de Garnier Flammarion, c'est le volume 661, peut-être a-t-on fait de nouvelles éditions. Vous avez les grands écrits réformateurs, le titre est trompeur, il y a deux textes, il y a celui que je viens de lire, et puis le très beau texte sur la liberté chrétienne, la liberté du chrétien. Très beau texte aussi. Et alors, je vous ai cité ici, je vous ai mis comme texte, un texte qui n'est pas dans ce volume, mais qui s'appelle une missive touchant le dur livret contre les paysans. Le dur livret contre les paysans. Alors évidemment, il faudrait, comme toujours, scander les choses. Selon les dates, 1520, c'est l'écrit à la noblesse que je viens de lire. 1523, c'est le texte de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance qu'on lui doit. Le texte à la page, seconde page que je vais commencer par lire. Et puis, le texte une missive touchant le dur livret contre les paysans, juillet 1525, c'est-à-dire que les paysans, entendant le message de Luther, se sont dit, ben évidemment, nous sommes tous évêques, nous sommes tous propriétaires, nous sommes tous, nous sommes tous nobles, et il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en possession de nos propriétés. Disons, je résume évidemment les révoltes des paysans, qui se sont révoltés évidemment contre la hiérarchie nobiliaire. Évidemment, Luther a un petit peu regretté ce qu'il avait écrit, et donc se dur livrait pour dire aux paysans, non, non, vous m'avez pas compris. Vous savez, c'est toujours quand les hommes politiques parlent, on dit, mais voilà ce qu'il a dit. Il répond, non, non, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous n'avez pas vu le contexte. Donc la deuxième lettre, ou la première page ici, est certainement plus dure que la première, que ce contexte, mais c'est tout de même du Luther, et c'est tout à fait dans sa ligne. Alors, commençons par la deuxième feuille, donc 1523, où on retrouve un thème tout à fait augustinien. Si le monde ne comptait que des vrais chrétiens, c'est-à-dire des croyants sincères, il ne serait plus nécessaire ni utile d'avoir des princes, des rois, des seigneurs, non plus que le glaive et le droit. Car à quoi cela leur servirait-il ? L'Esprit Saint est dans leur cœur pour leur apprendre et les pousser à ne faire de mal à personne, à aimer tout le monde, à souffrir volontiers avec joie l'injustice de la part de tous, même la mort. Là où chacun ne songe qu'à souffrir l'injustice et à faire le bien, il n'y a ni querelle, ni dispute, et il n'est pas besoin non plus de tribunal, de juge, de châtiment, de droit et de glaive. Aussi bien est-il exclu que le glaive et le droit temporel, notez la conjonction des deux, hein, glaive et droit, glaive et politique, aient besoin d'agir parmi les chrétiens, puisque ceux-ci font d'eux-mêmes bien davantage que ne peuvent exiger tous les droits et tous les enseignements. Comme dit saint Paul, la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les injustes. Alors voilà un grand thème qu'on trouverait en toute lettre chez saint Augustin. Vous voyez bien, si le glaive, disons la subordination, est le fruit du péché, parce qu'il y a des voleurs, parce qu'il y a des menteurs, parce qu'il y a des adultères, etc. Si tout le monde était chrétien, il n'y aurait plus d'adultères, il n'y aurait plus de voleurs, il n'y aurait plus de menteurs. Donc il n'y aurait plus besoin de gendarmes, besoin de prison, besoin de code civil, vous voyez, si on était tous chrétiens. Alors on retrouve cette idée de la dévalorisation du politique. Si on était tous chrétiens, pas besoin de loi. Nous nous guiderions par l'Esprit Saint, nous donnerions nos biens à qui nous les prend, nous tendrions la main, la joue droite quand on devrait frapper de la joue gauche, il n'y aurait plus de problème. Appartiennent au royaume du monde, donc les chrétiens appartiennent au royaume de Dieu, ils n'ont pas besoin de hiérarchie, ils n'ont pas besoin de loi, ils n'ont pas besoin de chef. En principe, les chrétiens sincères. Bon, qu'est-ce qui est vraiment chrétien sincère ? Question. Appartiennent au royaume du monde et se trouvent placés sous la loi tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Étant donné que les croyants sont peu nombreux et que seule la minorité se comporte d'une façon chrétienne, ne résiste pas au mal et s'abstient de faire le mal, Dieu a établi pour eux, c'est-à-dire pour les méchants, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu a établi pour eux, à côté de la condition chrétienne et du royaume de Dieu, un autre gouvernement, et il les a placés sous le glaive, afin que, tout en voulant suivre leurs mauvais penchants, ils ne puissent le faire sans crainte, ni paisiblement et avec succès. Tout comme on passe des chaînes et des liens à un animal sauvage et méchant, pour l'empêcher de mordre et de déchirer, suivant sa nature, même s'il en a le loisir. Par contre, un animal apprivoisé et docile n'a nul besoin de cale et il reste inoffensif, même sans chaînes et liens. Alors voilà un durcissement, en tout cas, de saint Augustin, puisque saint Augustin voyait les deux royaumes absolument liés, il est difficile de distinguer qui appartient à l'un ou à l'autre royaume. Ici, il y a une distinction tranchée, du moins apparemment, entre le royaume terrestre qui relève des méchants, qui relève des ces animaux qui ne sont incapables de se maîtriser, et les chrétiens qui, au fond, comme ils obéissent aux lois parce qu'ils ont très bien compris pourquoi il fallait payer des impôts, qu'il fallait pas tuer, etc., ils n'ont pas peur du gendarme, et qui appartiennent par conséquent au royaume de Dieu qui est tout autre. Vous voyez aussi derrière cette, j'y ai fait allusion tout à l'heure, derrière cette position concernant les non-chrétiens, il y a l'idée que, au fond, ces non-chrétiens, sans la grâce, ne sont pas capables de vouloir ni de faire le bien. C'est le thème de la nature corrompue. Ils ne sont pas capables de faire le bien. C'est un thème qu'on trouvera chez Hobbes. Puisqu'ils ne sont pas capables de faire le bien, seul le glaive, seule la crainte peut les tenir en garde. Vous voyez, c'est tout à fait cohérent. Si vous dites que les hommes sont incapables du bien, ils vont se déchirer. Donc, Dieu ne peut pas vouloir que les hommes se déchirent. Donc, il va instituer, c'est ce qu'on va voir dans les textes suivants, un pouvoir temporel muni du glaive pour maintenir la paix par une loi de contrainte. Nous allons retrouver ça parfaitement chez Hobbes. Et une loi qui est ce qu'elle est. Et qui n'a pas à se justifier, sinon par le fait que la loi juste est celle qui maintient les hommes à distance les uns des autres, c'est-à-dire qui ouvre un espace de coexistence, c'est-à-dire qui assure la concorde et la paix. La loi n'a pas à être bonne. Et il n'est pas nécessaire que l'homme comprenne le bien, l'homme méchant, le bien fondé de la loi. La loi est bonne dans la mesure où elle est posée par l'autorité légitime, le prince, et dans la mesure où elle assure la paix et la concorde entre les citoyens. Point. On a dans ces quelques expressions la quintessence d'une certaine philosophie politique moderne sur laquelle nous reviendrons. Alors, je vais lire la première page. Donc, postérieure, 1525. Il y a deux sortes de royaumes, l'un qui est le royaume de Dieu et l'autre le royaume du monde. Je l'ai écrit si souvent, il y a une irritation dans cette lettre, évidemment, puisque Luther s'en prend à des révoltés. Je l'ai écrit si souvent que je m'étonne qu'on ne sache pas encore et qu'on n'y prenne pas garde. Le royaume de Dieu est un royaume de la grâce et de la miséricorde, et non pas un royaume de la colère et du châtiment. Car il n'y a en lui que pardon, douceur, amour, service, bienfaisance, paix et joie, etc. Mais le royaume du monde est un royaume de la colère et de la rigueur, car il n'y a en lui que châtiment, résistance, jugement, condamnation, afin de contraindre les méchants et de protéger les justes. C'est pourquoi aussi il a reçu et porte le glaive. C'est un thème tout à fait important, l'histoire du glaive, parce qu'à travers tout le Moyen-Âge, on va parler des deux glaives, n'est-ce pas, Saint-Pierre. C'est pas seulement les clés, c'est les glaives. Saint-Pierre, au moment de la Passion, tire son glaive. Et Jésus lui dit, tu remets ton glaive dans le fourreau. Mais, ça c'est très important pour la théocratie papale, Pierre a un glaive. A un glaive qu'il pourrait effectivement tirer. Mais, il est fidèle à Jésus-Christ, il ne tire pas le... Mais il en a un. Vous voyez, le point de départ d'une... théologie papiste, enfin, n'est-ce pas, qui va dire mais le glaive est... Voilà, alors on va développer l'idée des deux glaives. Il y a le glaive du spirituel, l'excommunion, les diverses pénitences que Pierre ou ses successeurs peuvent exercer, et puis il y a le glaive temporel qui est entre les mains du prince. Voilà, donc, alors je continue. Les paroles qui traitent de la miséricorde, voilà un principe herméneutique. Pour lire les Écritures, il faut bien distinguer ces deux royaumes. Donc, les paroles dans l'Écriture qui traitent de la miséricorde concernent le royaume de Dieu et les chrétiens, et non pas le royaume temporel. Car un chrétien ne doit pas seulement être miséricordieux, mais il doit également souffrir toutes sortes de rapines, incendies, meurtres, tentations du diable et de l'enfer. À plus forte raison, doit-il encore renoncer à frapper quelqu'un, à tuer, à se venger ? Mais le royaume du monde, qui n'est rien d'autre que le serviteur de la colère de Dieu contre les méchants et le juste prélude à l'enfer et à la mort éternelle, ne doit pas se montrer miséricordieux, mais rigoureux, sévère et irrité dans son office et dans son action. Car son instrument n'est ni un rosaire, toujours un peu d'humour chez Voltaire, c'est pas avec un chapelet qu'on conduit les peuples, hein. C'est pas devant la grotte de Lourdes qu'on poursuit les criminels. C'est pas l'eau bénite, c'est son instrument n'est ni un rosaire, ni une fleur de l'amour, mais un glaive nu. Or, un glaive... Alors, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il faut éviter la confusion des domaines. Si vous pensez pouvoir gouverner la cité à coups de chapelet et d'eau bénite, vous laissez la carrière ouverte aux méchants. Si par contre, vous pensez que dans l'Église, on peut utiliser la contrainte, la hiérarchie, la punition, le droit, vous confondez tout. Vous voyez ? Donc, dans l'Église, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de glaive, il n'y a pas de contrainte, il y a le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas mélanger les domaines importants de la distinction qu'on va retrouver à travers les idées de laïcité et tout ça. Bon, il ne faut pas mélanger les domaines. Un glaive est un signe de colère, je poursuis la lecture, de rigueur et de châtiment, qui ne vise personne d'autre que les méchants. C'est ceux-ci qu'il surveille pour les châtier, les tenir en bride et en paix, afin de protéger et sauver les justes. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il institua le glaive, déclare dans la loi de Moïse, « Tu dois arracher le meurtrier, même de mon autel, et n'aura pas de pitié de lui. » Et l'Épître aux Hébreux professe que celui qui agit contre la loi doit mourir sans miséricorde. Cela prouve que l'autorité temporelle, dans l'exercice de sa fonction propre, ne peut ni ne doit faire montre de miséricorde, bien qu'elle puisse suspendre son office par un acte de grâce. Bon, on peut toujours gracier un criminel. Enfin, c'est borderline, n'est-ce pas ? La ligne propre, la logique propre du poids temporel, c'est l'exercice du glaive. Bon, vous voyez tout de suite que le bon chrétien, supposé qu'il soit un bon chrétien, il n'a rien à redouter du glaive. Le chrétien paye ses impôts, donc il ne redoute pas l'inspecteur d'impôts. Il conduit en respectant le code de la route, donc il n'a pas peur du gendarme. Il ne tue personne, donc il n'a pas peur d'être inspecté un beau matin chez lui, n'est-ce pas? Bon, etc. Il n'a pas peur de la loi, puisqu'il la respecte. Seul celui qui ne respecte pas la loi a peur, et légitimement. Or, celui qui voudrait mélanger ces deux royaumes, ainsi que font nos faux esprits partisans, mettrait la colère dans le royaume de Dieu et la miséricorde dans le royaume du monde, ce qui reviendrait à mettre le diable dans le ciel et Dieu en enfer. Il ne faut pas mettre le diable dans le bénitier et inversement. Mais cette rigueur et cette colère du royaume temporel, bien qu'elles apparaissent comme quelque chose d'impitoyable, si l'on veut bien y regarder de près, ne sont pas la part la moins importante de la miséricorde divine. Affirmation capitale, hein ? Que chacun s'examine soi-même. C'est un peu le même argument que chez Hobbes. Vous allez dire c'est affreux. Regardez ce que vous faites. Que chacun s'examine soi-même et me donne son jugement sur ceci. Si j'ai femme et enfant, maison et domestique, et si j'avais des biens et qu'un voleur ou assassin m'attaque, m'égorge dans ma maison, déshonore ma femme et mes enfants, et en plus prenne ce que j'aurais et qu'après cela ils doivent rester impunis afin de pouvoir en faire davantage là où ils voudraient, dis-moi, lequel des deux, dans ce cas, serait le plus digne de miséricorde et en aurait le plus besoin ? Moi ou le voleur et assassin ? Sans aucun doute, c'est moi qui aurais le plus besoin qu'on ait pitié de moi. Mais alors, si on veut montrer de la miséricorde envers moi, envers ma pauvre et malheureuse femme et mes enfants, qu'on s'oppose donc à de tels coquins qu'on me protège et sauvegarde mes droits, ou bien, si on peut l'empêcher d'agir et qu'il continue, qu'on le traite comme il se doit en le punissant de telle sorte qu'il doive cesser. Quelle belle miséricorde ce serait pour moi qu'on se montre miséricordieux pour le voleur et l'assassin et qu'on le laisse me tuer, me déshonorer, me piller. C'est pourquoi l'Écriture, qui a des yeux excellents et purs, considère avec raison que le pouvoir temporel, par grande miséricorde, doit être sans miséricorde. Ça, c'est des paradoxes de Luther. Et par pure bonté, pratiquer la colère et la rigueur. Paul, Rome et Pierre déclarent qu'il est le serviteur de Dieu pour exercer la vengeance, la colère et le châtiment contre les méchants et pour assurer la protection, la louange et l'honneur des justes. Il prend en considération les justes et il a pitié d'eux, et pour qu'aucun mal ne leur arrive, il interdit mort, pourfend, tranche, frappe, tue, ainsi qu'il en a reçu l'ordre de Dieu dont il se reconnaît le serviteur. Très intéressant aussi. Il y a donc une mission divine donnée au prince temporel. Le prince temporel n'exerce pas simplement une fonction par hasard ou simplement par nécessité. Dieu veut que le prince exerce sa fonction. Donc Dieu veut le pouvoir temporel et il veut un pouvoir temporel qui soit capable de réprimer les méchants en mettant de l'ordre dans la cité. J'ajoute tout de suite et par parenthèse qu'il faut faire attention de ne pas interpréter ça de manière perverse. Luther ne dit pas plus le prince tuera de gens, mieux ça vaudra, n'est-ce pas ? Il a le glaive en main, mais un peu comme Pierre, il n'est pas obligé de l'utiliser toujours. Et même, il y a une très belle lettre, que je ne vais pas lire ici, parce que je ne veux pas m'arrêter trop sur Luther, une très belle lettre où il dit, mais le vrai prince chrétien, il doit savoir d'abord ne pas exagérer dans les punitions, et même dans certains cas, il doit fermer les yeux sur le mal. Parce que s'il fait plus de mal que de bien par les mesures répressives qu'il prend, qu'est-ce qu'on donne ? Donc il faut savoir, dans certains cas, fermer les yeux. Le prince ne voit pas ce qui se passe. Ça, c'est une belle idée, d'ailleurs, traditionnelle. Le prince ne peut pas lutter contre tous les maux. Donc, si les mesures qu'il va prendre aggravent encore le mal, mettent les gens encore plus en opposition, bon, le prince ne fera rien. Ça, c'est écrit en toute lettre par Luther. Donc, il ne faut pas interpréter ça comme si Luther disait au prince, allez-y, massacrez, massacrez, et vous serez plus dans la ligne de Dieu. Non, il exerce par miséricorde. Donc, il doit avoir de la miséricorde quand il le faut, mais sa tâche première, c'est d'assurer l'ordre et la paix. Si donc les méchants sont punis sans merci, ce n'est pas uniquement parce qu'on recherche le châtiment des méchants et qu'on veut assouvir ses désirs dans leur sang. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est pour que les justes soient protégés, que la paix et la sécurité soient maintenues. Paix et sécurité. Ce qui, à n'en pas douter, constitue une belle œuvre de miséricorde, d'amour et de bonté. Car il n'y a sur terre de plus grande calamité que la discorde, l'insécurité, l'oppression, la violence et l'injustice. Bon, on retrouve les situations évidemment dans laquelle se trouvait Luther, et ça c'est un point évidemment tout à fait décisif, hein. L'arrière-fond, c'est pas la cité grecque plus ou moins calme, c'est la guerre civile, c'est la guerre religieuse. Donc c'est ça, comme chez Hobbes, qu'il faut à tout prix éviter. Ben, il n'y a rien de pire, nous allons le trouver à plusieurs reprises, il n'y a rien de pire que la dissension civile. Donc il n'y a rien de mieux que le pouvoir qui lutte contre la dissension civile. Je veux dire, il y a une espèce de logique tout à fait imparable. Car qui pourrait ou qui voudrait continuer à vivre si cela devait être ainsi? Oui, question de vie et de mort. C'est pourquoi la colère et la rigueur du pouvoir sont aussi nécessaires pour le peuple que le manger et le boire, voire que la vie elle-même. Donc il y a toute une philosophie politique ici extrêmement forte, selon laquelle effectivement le glaive ou le pouvoir temporel est nécessaire pour assurer la paix et la sécurité. Non pas pour se venger, non pas pour le plaisir de tuer des gens, mais pour assurer la paix et la sécurité, et en particulier pour assurer aux braves gens, aux honnêtes gens, il parle ici des chrétiens, la tranquillité. Voilà, alors, encore un mot sur Luther. C'est une position, vous voyez, qui a une première conséquence, c'est que c'est au prince temporel qu'il revient de protéger les chrétiens et les églises. Puisqu'il n'y a plus d'église hiérarchique et que tous sont prêtres, évêques et papes. Et donc, la soumission au prince temporel fait partie du devoir du chrétien, ou inversement, il appartient au pouvoir temporel de protéger les églises. Regardez ce qui se fait encore dans certains pays protestants. C'est le prince, quand le protestantisme et le luthéranisme sont religion d'État, qui assure la sécurité de l'Église. Sa gracieuse majesté britannique est toujours le gouverneur de l'Église de la communion anglicane. C'est elle qui nomme le primat de l'Église anglicane et en principe les évêques. En principe, jusqu'à il y a peu, c'était le cas en Finlande, Norvège, Suède, Danemark. Bon, sans parler du fait qu'un certain nombre de fonctions n'étaient pas ouvertes aux non-luthériens. Bon, ça veut dire que, voilà, c'est très intéressant. L'ecclésiologie étant absente d'une certaine façon, c'est-à-dire l'Église n'ayant pas d'autonomie, par rapport au pouvoir temporel, elle est sous la coupe du pouvoir temporel, lequel n'abuse pas nécessairement. Il ne faut pas tout de suite comprendre ça de manière tragique et dramatique, mais ça veut dire qu'il est le protecteur du pouvoir temporel et qu'on lui doit obéissance. Voilà, ça c'est un point capital et certainement qui met à grande différence du catholicisme dans lequel il reste une Église avec sa hiérarchie, son code, ses lois, etc. Et il faut bien voir que quand on dit « Ah non, non, il faudrait abolir tout ça, n'est-ce pas, pas de code, pas de loi dans l'Église catholique », bon, ça conduit à quoi? Alors, la deuxième remarque, et je vais sans doute m'arrêter là, c'est qu'on a à la fois, curieusement, une position de sacralisation du prince, temporelle, puisqu'il est, par miséricorde, voulu par Dieu, en tant que tel, et en même temps une désacralisation du pouvoir temporel. Puisque le pouvoir temporel n'a qu'un rôle de gestion de la violence. Le pouvoir temporel, nous allons trouver ça chez Hobbes, il ne vise pas à la vertu des citoyens. Parce qu'il n'y a pas de vertu. Il y a la grâce pour ceux qui l'ont, et pour les autres, il n'y a pas de vertu, puisqu'ils ne peuvent pas finalement faire le bien. Donc, il y a le prince n'a pas pour but d'assurer le bien, il n'y a pas d'idée de bien commun. Le prince a strictement pour rôle d'assurer l'ordre, la paix et la sécurité. C'est exactement la position de Hobbes. L'ordre, la paix et la sécurité. Il n'entre pas dans les perspectives d'un bien commun, d'une finalité, parce qu'il n'y en a qu'une qui est celle du royaume de Dieu. Donc, curieusement, la position de Luther est à la fois extrêmement, j'allais dire, chrétienne classique, presque même sacrale. Le prince est sacrée, sa fonction, en tout cas pas le prince en tant que tel, c'est une différence avec la monarchie absolue française, hein. C'est pas le prince en tant que tel qui est l'élu de Dieu. Le prince, il a une fonction. Donc c'est pas la personne du prince qui est sacralisée, faut bien faire attention, c'est la fonction. Mais, donc, parfaitement classique par certains côtés, classique traditionnel, et en même temps, il ouvre la voie à la sécularisation de la politique. La politique n'a plus pour but que, ou le poids politique n'a plus pour but que d'assurer la paix et la sécurité. C'est un peu le principe de l'État libéral, il n'a pas à faire notre vertu, il n'a pas à chercher le bien, il n'a pas à vous convertir à quoi que ce soit, il n'a pas... Donc le prince chrétien dans la perspective du terme, si je comprends bien, comment dire, protège l'Église, mais il n'a pas à proprement parler de fonction de propagation de la foi. N'est-ce pas? Autant que je comprenne. Il y a deux royaumes séparés. Parce que la propagation de la foi, même ça n'a pas de sens. C'est l'Esprit Saint qui convertit les gens. Je dis ça par référence au catholicisme, où les papes vont dire au moment de la découverte, entre guillemets, du Nouveau Monde, vont dire aux princes très catholiques de Portugal et d'Espagne, en tant que prince très catholique, vous devez aider la Sainte Église, envoyer des missionnaires dans ces pays barbares, et donc les prendre sur vos bateaux, les protéger sur place, les encadrer de soldats pour qu'ils puissent enseigner le Saint-Évangile aux Indiens. Et les princes très catholiques se sont fait un peu tirer l'oreille, mais finalement ils ont vu que c'était dans leur intérêt de le faire. Donc ils ont emporté des bons franciscains, dominicains, plus tard des jésuites, dans leur caravelle. Bon, je crois que ça, c'est pas très luthérien, du moins me semble-t-il. Voilà, donc, vous voyez, j'insiste là-dessus parce que je me suis permis de faire ce petit détour par Luther, qui n'était pas prévu tout à fait dans le plan, parce qu'on voit tout à fait une trace, à la fois théologique et politique, du christianisme et une certaine philosophie politique qui en découle. Voilà, on peut peut-être discuter là-dessus si vous souhaitez des précisions. Évidemment, c'est ce que je dis là est très schématique. Non, la loi sur la sécurité, c'est point. Je reprends mon exemple idiot de code de la route. On vous demande de vous arrêter au feu rouge. On vous demande de faire du 30 à l'heure dans le village. On peut dire 40, on peut dire 50. C'est arbitraire, mais ça assure l'ordre. Ça évite aux gens de se tuer. Maintenant, en volant dans votre voiture, vous pourrez citer le chapelet, vous pouvez lire un roman policier, vous pouvez écouter votre... Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie privée. Et le pouvoir n'a rien à vous dire. Simplement, il vous protège de la violence de vous-même et des autres. Donc, il n'y a aucune conception, me semble-t-il, morale de la loi. La loi n'est pas faite pour vous inviter à la vertu. Enfin, au minimum, elle vous évite les violences, elle vous évite de tuer les autres, par exemple. Code de la route, bon. Mais c'est tout. Elle est la loi, et c'est le principe du positivisme juridique, parce qu'elle est posée par l'autorité compétente. Et en un sens, l'autorité compétente ne peut se justifier devant vous que si son autorité vous assure la sécurité et la paix. Il obéit à la loi. Il obéit à la loi. Il obéit à la loi. Oui. Bien sûr, il obéit à la loi. Parce que voilà aussi, à mon avis, un préjugé sur le terme, on dit c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de conscience dans l'Église. Dans l'Église, personne ne peut m'imposer de croire à la transsubstantiation. J'y crois si la grâce me fait croire. Parce que si ça serait mettre le diable dans le royaume de Dieu. Donc personne ne peut m'imposer de croire. Liberté de conscience. Mais au niveau civil, alors, parce que ça ne vous plaît pas de faire du 30 à l'heure, vous allez traverser le village à 150? Est-ce qu'on a vu ça? Voilà, alors, pas nécessairement, parce qu'il y a bien des façons. Je vais vous donner un exemple assez terrible, Bonnefer. Bonnefer, vous connaissez le grand protestant allemand qui a été tué, assassiné par les nazis 2 ou 3 jours avant la libération de Berlin. Si vous lisez son éthique, il y a à la fin de l'éthique 3 appendices, et un appendice sur l'Église-État. Il a dû écrire cet appendice quelques jours avant sa mort. Il se savait condamné. C'est un texte très émouvant, où il dit, mais, donc, bon luthérien calviniste, hein, Hitler, ce qui n'est pas voulu par Dieu. Et donc, est-ce que j'ai eu raison de m'y opposer? Bon, c'est une lubie, c'est un fantasme, mais il pose la question. Eh bien, j'ai eu raison de m'y opposer, dit-il, et il a raison de me tuer. Il dit pas ça comme ça, mais il dit, oui, voilà, Dieu trouvera les siens. Il y a de la grandeur là-dedans, hein, mais Hitler fait ce qu'il a à faire et moi je fais ce que j'ai à faire. Donc j'estime qu'il était barbare et tout ce que vous voudrez, qu'il tue les juifs et tous les autres. Bon, je me suis opposé à lui, mais je me suis fait pincer. Ben... Ah oui, ça je crois que c'est une grande tradition. D'ailleurs, vous savez, tout le débat qu'on ne va pas rencontrer tellement, sinon un peu à la marge, le débat sur le tyrannicide, il est quand même là. Hein, avec autour de Pascal, les jansénistes, les jésuites et tout ça. Parce que dans une perspective catholique, on va quand même dire, mais la conscience, elle joue aussi sur le terrain politique. Et donc, si le prince est absolument tyrannique, ça va faire des drames en Angleterre, hein, parce qu'on va soupçonner les catholiques d'être, on va les foutre en taule, les torturer et les tuer. Parce qu'on va les soupçonner d'être de mauvais citoyens par rapport au roi protestant. Donc ce n'est pas simplement des discours académiques, hein, c'est des questions qui entraînent loin. Non, mais je crois que dans la ligne théorique, il faut lire ce texte de Bonnefer qui est très impressionnant. On voit très bien, c'est un homme un peu torturé qui dit, mais non, au total, oui, ben je meurs fidèle à ma foi, ce qui est quand même très beau. Mais il fait ce qu'il avait à faire, le Hitler. Ben, il y avait d'autres questions que... ben, oui. Pas toujours, non. Non, là, ça relève de la lecture médiévale des Écritures, hein. Et le texte qui est souvent mis en cause, ben, justement, on comprend bien pourquoi. Est-ce que Jésus avait le droit de se rébeller contre ceux qui venaient l'arrêter? Oui, c'est tout notre problème. Et Pierre pensent que oui, il fallait pas se laisser arrêter comme ça. Et donc Jésus lui dit, remets le glaive dans ton fourreau. Et comment se dit que Luther... Ah, si vous lisez l'épître de Pierre sur l'autorité, elle est bien plus raide encore que celle de Paul. On cite toujours Romains 13, mais lisez l'épître de Pierre, j'ai plus au chapitre 4, etc. Vous verrez, c'est bien, bien plus radical dans l'obéissance au pouvoir établi que Paul. Hein. Non, puis je dirais, il reprend une longue tradition, l'histoire du glaive, vous la retrouvez partout dans la théologie médiévale. Donc là, il reprend des chose commune, hein. Il n'invente pas l'histoire du glaive, c'est pas lui qui a inventé, il reprend un discours qui était commun. Oui. Ah, mais encore une fois, prenez en compte ce que dit Luther. Vous lisant les textes aujourd'hui, nous les lisons autrement. Mais Luther le lit dans une certaine tradition. D'ailleurs, si vous allez vérifier les textes qui donnent en référence, vous verrez que c'est une interprétation des Écritures qui laisse à désirer, de notre point de vue à nous. Et comme souvent chez Luther, il tire des Écritures des choses qui nous surprennent. Mais il faut lire ce que lui dit. Alors, on peut toujours dire il le lit mal. Oui, mais, écoutez, je ne veux pas être méchant pour Luther, mais les textes scripturaires sont au service de sa pensée. Contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas la sola scriptura. C'est qu'il a une philosophie de l'homme et de la...
et de la politique, et puis il trouve des textes, comme toujours, il trouve des textes évangéliques qui vont dans son sens. Parce que même le texte de Paul, quand on le lit de près, il y a aussi le pouvoir est en vue de faire le bien. Donc si tu fais le bien, alors on peut l'interpréter de manière polynienne, on peut l'interpréter de manière thomiste, c'est-à-dire que voilà, la finalité du politique, c'est pas le glaive, c'est le bien. Oui. Est-ce que je ne connais pas assez bien Luther hein, pour pouvoir vraiment vous répondre. Je crois que non. Et que. Non, parce qu'il était tellement hostile à cette église, en effet, pourrie, etc., qu'il avait sous les yeux, qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur le pouvoir spirituel des papes et des évêques, qui étaient complètement inefficaces et pourris. Donc il attendait que ce soit les princes qu'il fasse. Et vous avez raison, je pense qu'une des raisons, sans doute, de l'expansion du luthéranisme, c'est des princes qui se sont dit. Vous voyez bien Henri VIII en Angleterre. Eh ben oui, n'est-ce pas, c'est moi qui devenir chef et je ne serais pas soumis à Rome. Et si je veux divorcer avec la belle, je ne sais plus comment elle s'appelait, Anne Boleyn, eh bien, on ne viendra pas m'emmerder avec leurs histoires. Oui, sûrement que ça joue un peu. Non, je ne crois pas qu'il ait tellement vu. Non, je ne crois pas qu'il ait tellement vu. Parce que derrière tout ça, il y avait quand même, j'insiste, une hostilité à l'égard de l'Église. Hein. Je crois. Pas dans le premier Luther, mais... Alors voilà le problème. Qu'est-ce que tu en conclus après la lecture des textes ? Bien sûr. Alors c'est en ce sens que Luther est tout à fait moderne, parce que le prince, pour exercer la fonction qui nous est décrite là, n'a pas besoin de la grâce. Il a besoin de comprendre sa fonction. Réprimer les méchants et protéger les bons. Alors tu peux être, j'allais dire à la limite, athée, n'importe quoi, tu peux parfaitement exercer ça. Le chrétien, lui, comprendra que tu le fais. Ben, c'est bonne affaire à l'égard de Hitler. Hein. Hitler n'est pas chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a compris... Il fallait châtier les méchants, méchants juifs et tout ça, et châtier, favoriser les bons nazis. Donc je crois qu'il est très moderne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, alors, c'est à nouveau très différent de la monarchie absolue à la française, où le prince a l'onction à Reims, donc il est un élu de Dieu. Là, chez Luther, le prince n'est pas un élu de Dieu. Il a une fonction qui ne demande pas particulièrement la grâce, je ne crois pas. Non, non, en ce sens, il est très, je vais dire, hyper moderne. Prince, il a une fonction à remplir, et s'il la remplit bien, ben c'est parfait, il répond à la volonté de Dieu, même s'il n'est pas chrétien. Tu ne crois pas? C'est une sécularisation radicale du politique, en un sens. Alors, le discours est un discours très théologique et récupérateur, puisque le prince, c'est l'effet de la miséricorde divine, mais le prince, je dirais à la limite, n'a pas besoin de le savoir, pourvu qu'il exerce bien sa fonction. Qui réprime les méchants et qui favorise les... pas favoriser, qu'il protège les bons, ok. Alors, le problème va quand même se poser, et gravement, tout à fait, alors ça répond peut-être aussi à la question que vous posiez précédemment, lorsque le prince de protestant devient catholique ou l'inverse, ça va se poser des deux côtés. Est-ce que les catholiques en Angleterre vont obéir à un prince luthérien ou calviniste et inversement ? C'est une grande question, bien sûr. Mais l'idée, je crois, des deux côtés, ça va être l'obéissance, quitte à aller en prison, se faire torturer et subir le martyre.
sauf si, alors voilà le débat qui a eu cours entre Jacques Ier et Bellarmin, Gadel Bellarmin, sauf si le prince fait des excès tels qu'on puisse envisager de le supprimer. Mais c'est pas n'importe qui va supprimer Jacques Ier ou Louis XIV, hein. De loin, on dit, c'est magnifique, le tyrannicide. Mais bon, allez-y voir. Pas tuer un prince comme ça, hein. Parce qu'il est entouré de garde du corps et... Bon, c'est des débats théoriques, mais qui sont significatifs. Tu voulais dire encore quelque chose? Qu'il en fait, ben là, dans ce texte, il est clairement non violent pour le chrétien. Hein, le chrétien accepte de qu'on le vole, accepte. Il s'en remet au prince. Si on te vole ta voiture, tu vas au commissariat de police. Tu es luthérien, en sens, tu vas dire au commissariat. Hein, voilà. Tu vas pas taper sur ton voisin en disant il a une sale tête, il me regarde de travers, c'est sûrement lui qui a pris ma voiture, je vais casser la sienne. Non, normalement. Donc. Oui, je crois que c'est... Non, c'est une tradition, je crois, plutôt de non-violence pour le chrétien, pas pour le prince, puisque le prince doit même accepter de tuer éventuellement. De tuer dans les règles, il ne s'agit pas de tuer les gens à droite à gauche. Hein, c'est pas... Il faut bien faire attention, ce n'est pas un blanc-seing donné à la violence du prince. Le prince doit assurer la paix. Mais ça veut dire aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que finalement... L'Église n'a rien à dire au pouvoir politique. Vous voyez tous les conflits qu'on voit aujourd'hui où l'Église catholique intervient, à travers peut-être, bon. Elle se dit, mais moi j'ai quelque chose à dire sur la cité. Là, le luthérien n'a rien à dire sur la cité. Sinon, assurer la paix et la sécurité. D'ailleurs, le silence des protestants dans les questions d'éthique est assez hallucinant. Partout, mais oui, l'Église catholique dira, mais non, mais moi je suis... On ne fait pas cette espèce de coupure. Dans le temporel, il y a des enjeux spirituels, et dans le spirituel, il faut des églises, il faut des bâtiments, il faut des écoles éventuellement, il faut... Ben, je crois qu'il y a quand même une tradition philosophique et théologique assez forte. Bon, il faudra toujours nuancer concrètement, c'est toujours plus compliqué. Mais je crois que l'intérêt de lire ces textes, c'est quand même qu'ils nous décrassent l'esprit par rapport à, par exemple, l'idée de liberté de conscience. Ah, les protestants, la liberté de conscience. Liberté de conscience dans l'Église. Mais pas la liberté de conscience des gardes de la loi. Alors, on peut faire par extension, dire, ah oui, mais en fait, ça voulait dire que... Oui, bon, d'accord, mais à ce moment-là, on sort de l'épure. Voilà, oui. Bon, serment de, oui. La Bible. Voilà. Oui, mais c'est oui, le cas des États-Unis que je n'ai pas cité est assez différent. Parce que les États-Unis sont nés du protestantisme, des protestantismes. Donc, les pères fondateurs, Lincoln et les autres, se méfiaient par-dessus tout d'une seule église dominante, fut-elle luthérienne. Ils ont voulu, au contraire, Lincoln le dit explicitement, le plus d'églises possible. Parce que plus il y a d'églises, moins le risque est grand qu'il y en ait une. Et donc c'est toujours l'Église catholique qui est visée. Quand il y en a une, elle est tentée de... Si vous en avez une poussière d'Église, de secte et tout ça, le pouvoir est tranquille. Alors, on a affaire à un pays, je crois, qui est fondamentalement religieux, disons plutôt chrétien. Hein. Donc on admet les bases chrétiennes ou religieuses avec même le messianisme américain. Et c'est sans doute pourquoi le président se met la main sur le cœur, fait des prières. Reagan, quand il y a eu cette fusée qui a explosé, il a fait une prière. Vous voyez, Hollande fait une prière le jour d'une catastrophe d'avion. Il n'est même pas capable de remercier le pape ou de... Bon, le président... je crois que les Américains attendent ça, hein? Comment? Ben, c'est pas notre tradition, mais
C'est un peuple très religieux, finalement, enfin religieux d'inspiration.
Bien sûr, si, je crois. Mais en même temps, la Constitution prévoit une stricte séparation de l'Église et de l'État. Stricte séparation. L'État ne peut pas financer en aucune façon les institutions religieuses. C'est très très ferme. Voilà, mais c'est un mélange de choses bizarres. Hein. C'est... mais c'est autre chose que les États luthériens européens, Norvège, pays scandinaves, etc., où on a plutôt le schéma que je viens de dire, en gros,
bah, qui s'est avec le temps s'est élargi, assoupli. Enfin, quand même, vous êtes toujours en Angleterre, dans la Chambre des Lords, des évêques anglicans.
Imaginez des évêques français au Sénat. Les protestants, les premiers, pousseraient des hurlements. L'Angleterre, bon. On a d'ailleurs proposé aux évêques catholiques, à quelques-uns, de rentrer dans la Chambre des Lords, ce qu'ils n'ont heureusement pas voulu. Mais c'est dire la mentalité. Voilà, on s'arrête quelques minutes.
Voilà, on peut reprendre si vous souhaitez, si vous voulez bien. Par rapport au plan, j'avais indiqué un dernier point sur la personne humaine que je vais laisser de côté. J'en ai déjà parlé un peu, mais il est certain qu'un des points par lesquels la tradition philosophique occidentale va diverger d'Aristote, c'est la conception de la personne qui vient tout droit, en effet, d'une affirmation chrétienne selon laquelle la personne humaine est transcendante par rapport à la cité. Autrement dit encore, par rapport à Aristote, pour qui il y a un lien intrinsèque entre humanité et citoyenneté, dans une perspective chrétienne, la citoyenneté terrestre n'englobe pas totalement la personne qui a une portée transcendante. Bon, quand saint Paul dit aux Philippiens « Notre citoyenneté est aux cieux », évidemment, c'est une affirmation tout à fait anti-aristotélicienne. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est un point, évidemment, qui demanderait être développé. Alors, je voudrais passer à la suite, c'est-à-dire au chapitre, ce que j'appelle le chapitre 3, c'est-à-dire l'idée de souveraineté. Alors, comme vous voyez, c'est certainement une des conclusions majeures de ce premier parcours, l'idée de subordination va être une idée dominante dans la pensée politique moderne. Et c'est évidemment une perspective très étrangère à la perspective aristotélicienne, en tout cas. À proprement parler, chez Aristote, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'instance de pouvoir qui serait à distance du peuple. C'est la cité elle-même qui se gouverne à travers des institutions d'ailleurs très peu permanentes, où les fonctions sont roulantes, temporaires, mais il n'y a pas à proprement parler de subordination. Alors, cette subordination, nous en avons vu des raisons avec, en particulier avec Luther, mais avec cette anthropologie de l'homme méchant à laquelle dont j'avais parlé déjà précédemment, et qui a là aussi une origine chrétienne évidente. C'est l'homme pécheur, l'homme incapable de bien par lui-même, et auquel, justement, la loi vient s'imposer d'une certaine façon de l'extérieur. Donc on pourrait dire que cette idée de subordination, elle est directrice, elle n'est pas la seule, mais elle est directrice dans la pensée moderne, d'où le lien avec l'idée de souveraineté et le lien avec l'idée d'État. Alors, la subordination, j'ai mis au tableau une sentence bien connue de Hobbes dans le Léviathan, livre 2, chapitre 17. Vous allez retrouver une traduction philosophique de Luther, covenant, les pactes, les serments, les contrats, without the sword, sans l'épée, sans le glaive, are but words, ne sont que des mots. Voyez, n'est-ce pas, les conventions sans l'épée ne sont que des mots. Ben, c'est du Luther transcrit. Les mots, on sait ce que ça vaut. Mais quand tu as une petite épée derrière, les conventions, les contrats, les tout ça, ont peut-être davantage de possibilités de durée. Voilà, c'est l'idée de subordination. On ne fait pas trop confiance. La parole, c'est au fond de l'horizontale. L'amitié, faites-moi confiance, je vous donne ma parole. Bon. S'il y a la loi derrière, un avocat, la prison, etc., c'est plus sûr. La parole aussi, mais enfin bon. Covenants without the sword are but words. Alors, on comprend les raisons que j'ai un peu dites tout à l'heure, on peut réfléchir à nouveau, cité instable, cité divisée, etc. Mais cette idée de subordination, elle est capitale par rapport à la philosophie politique moderne. Au point même que Hannah Arendt, que vous avez déjà rencontré, je suppose, ailleurs, dit quelque part, elle qui est très grecque, que la philosophie politique moderne a trahi la grande tradition philosophique, à savoir celle des Grecs, puisqu'elle a introduit celle de l'idée de subordination. La philosophie politique est marquée au coin de l'infidélité, dit-elle, parce que, justement, elle oublie les grands thèmes de l'amitié, de la coopération, illustrés par les Grecs. Donc, elle est en contrefaçon des Grecs. J'avais déjà signalé ce point à propos d'Anna Arendt et de Léo Strauss. Alors, en nous arrêtant à l'idée de souveraineté, nous nous arrêtons en même temps à l'idée de subordination, bien entendu, et à l'idée d'État, qui fait corps avec l'idée de souveraineté. Alors, je voudrais m'arrêter à un auteur peu connu, mais je crois tout de même très important, qui est Jean Bodin. Jean Bodin, c'est un juriste français, 1529-1596, 16e siècle, donc avant les grands craquements, mais qui a quand même connu la Saint-Barthélemy. C'est un juriste. Il a fait ses études, il a fait des études de droit, puis il a exercé à Toulouse. Il est venu ensuite comme avocat au Parlement de Paris. Il a été procureur du roi en Normandie, à Lens. Il a participé aux états généraux de Blois, qui ont été, je crois, les derniers en 1576, avant les célèbres états généraux de Versailles. Et il a en particulier écrit un gros livre qui s'appelle « Les six livres de la République », dont vous pouvez trouver des extraits importants dans ce petit volume, dans le livre de poche. C'est à cette édition que je ferai référence, un abrégé, c'est le numéro 46-19. On peut trouver l'essentiel là-dedans. Alors je vais le prendre parce qu'il est plus, il donne une vision de la souveraineté moins raide, plus souple, enfin plus élargie que celle de Hobbes, et il me semble qu'il est davantage inspirateur de ce que va devenir l'idée républicaine. Donc c'est un peu sur lui que je m'arrête, et puis c'est un juriste, c'est toujours intéressant, juriste philosophe quand même, de s'arrêter à un auteur comme celui-là. Alors, quelques mots d'abord sur le contexte de naissance de l'idée de souveraineté, et d'abord sur le contexte dans lequel réfléchit Bodin, un juriste qui va être au service du roi. Bodin se trouve donc à un moment stratégique de la montée en force de la monarchie en France et de l'affermissement de cette monarchie sur la nation française. Donc, montée en force d'un pouvoir central de plus en plus fort, mais qui se trouve en conflit avec une multiplicité de juridictions et de législations médiévales buissonnantes. D'un côté donc, on a une puissance politique naissante, mais qui est désireuse de s'affirmer, et de s'affirmer à travers un système de lois cohérent, ordonné, unifié, si possible clair. Bon, c'est un peu la grande tradition jacobine qui commence à naître là, qui serait valable pour tous et des lois que tout le monde pourrait connaître. Et de l'autre, On a un pays marqué par les coutumes, par des juridictions nombreuses, contradictoires, localement enracinées, et qui sont le résultat de ces multiples relations féodales qui ont marqué le Moyen-Âge. Donc on faisait des contrats entre tel ou tel noble et telle ou telle paysannerie, et donc il y avait une espèce de droit au pluriel buissonnant. On pourrait dire que cette tradition était celle du droit coutumier, comme il en existe encore, surtout par exemple en Grande-Bretagne, c'est-à-dire d'un droit qui n'est pas tellement formulé par écrit, qui se contente d'avaliser des situations acquises, finalement, donc avec tout le poids de l'histoire, mais aussi tout le poids de la situation très particulière dans laquelle se joue ce droit, et qui sont d'autant plus enracinés dans un terreau historique, social, que l'on ne peut pas beaucoup les faire bouger. Si ce droit bouge, c'est peu à peu, de manière finalement assez peu visible. Alors on voit très bien la réaction du juriste royal, qui était Bodin, devant ce maquis de coutumes et de juridiction. Par rapport à une monarchie qui veut s'établir et réguler les choses, la multiplicité des privilèges, des avantages locaux est quelque chose d'insupportable. Et il est clair que Bodin accuse ces diverses coutumes de paralysie, d'incohérence. On ne juge pas de la même façon ici et là. Et donc cela engendre des injustices de toutes sortes. Et on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui avec la régionalisation ressurgir des inégalités de traitement, de droits, de privilèges par rapport à un État unifié. Alors il faut bien se rendre compte que Bodin était dans une situation où on avait une sorte de maquis, de grouillement de lois diverses qui favorisait l'injustice et la corruption. C'est aussi une des grandes idées de Bodin, c'est qu'il y a toujours des petits rusés qui se saisissent de ce maquis de loi et parviennent toujours à en faire jouer une contre l'autre au profit d'un bénéficiaire. Donc, derrière ce magma de loi locale, se cache beaucoup de corruption, de trafic, de toutes sortes. Et donc, il est très difficile de faire bouger cette sédimentation, parce que ça s'est accumulé les uns sur les autres, on n'arrive plus à y voir clair, et à travers tout ça, on aboutit à beaucoup d'injustices. Donc on voit très bien qu'il y a là un conflit, dont Bodin est à la fois l'acteur et le témoin, entre un droit coutumier médiéval, qui va peu à peu être éliminé, au moins en France, et un droit étatique unifié. Et Bodin va être du côté, évidemment, d'un droit politique ou de droits politiques unifiés. Alors la grande idée, le grand reproche de Bodin, outre tout ce que je viens de dire, paralysie, inconséquence, corruption, etc., c'est que ce système juridique confus alimente l'anarchie. Et nous retrouvons ce thème qu'on a vu chez Luther, qu'on trouverait chez Hobbes, la peur de l'anarchie, la peur de l'hostilité des citoyens les uns contre les autres, les peurs de la guerre, les peurs des cabales, les peurs des jacqueries, des paysans qui s'insurgent contre les nobles, etc. Et bien entendu, derrière cette critique de l'anarchie, Bodin, qui est contemporain des guerres de religion, met en cause effectivement l'anarchie qui vient de la guerre de religion. Le livre que nous allons lire a été écrit, je crois, paraît en 1576, et la Saint-Barthélemy a eu lieu en 1572. Donc le livre est contemporain de cet immense désordre qui n'a pas seulement touché Paris et Saint-Germain-le-Sérois, mais qui a touché beaucoup de villes en province. Les catholiques ont assassiné les protestants, et d'ailleurs réciproquement. Alors c'est à ça que Bodin va s'en prendre. En réalité, c'est moins les guerres de religion qu'il attaque que la fragmentation de la société dans ce qu'il appelle des factions et des partialités. Mais ces factions et ces partialités, elles font le jeu, effectivement, des rébellions sociales, économiques, politiques et, évidemment, aussi religieuses. Alors, par conséquent, la guerre est à la fois un produit de ces factions et elle est en même temps un effet de ces factions. Alors, je vais lire un petit passage où l'on voit tout à fait sa position. C'est le chapitre 7. Nous posons cette maxime que les factions et partialités sont dangereuses et pernicieuses en toutes sortes de républiques et qu'il faut, s'il est possible, les prévenir par bon conseil, bon, c'est un peu de l'ancien français, hein, et si on est à pourvu auparavant qu'elles soient formées, qu'on cherche les moyens de les guérir ou pour le moins employer tous les remèdes convenables pour adoucir la maladie. Je ne veux pas dire que des séditions et partialités n'adviennent quelquefois un grand bien, une bonne ordonnance, une belle réformation, qui n'eût pas été si la sédition ne fût advenue. Mais ce n'est pas à dire que la sédition ne soit pernicieuse, quoi qu'elle tire après soi, quelque bien par accident et casuellement, comme au corps humain la maladie qui survient est cause qu'on use de saignées et purgations et qu'on tire les mauvaises humeurs. Mais les séditions sont bien souvent cause que les plus méchants et vicieux sont tués ou chassés et bannis. Donc, même si les séditions, et là-dessus Bonin est un homme nuancé, peuvent avoir du bon, il faut les éviter à tout prix. Bon, on voit très bien toute l'idée, n'est-ce pas, qui se met en place d'une nécessaire uniformisation contre les particularités de toutes sortes qui sont séditieuses. Donc, c'est intéressant de voir que les séditions sont mises du côté des partialités. Même si elles peuvent être fécondes, elles sont une maladie du corps social. Maladie du corps social. Et donc, il faut les éviter. Bon, ce qui, par parenthèse, est assez opposé à l'idée de Machiavel, qui pensait qu'au contraire, la République a besoin, non pas à proprement parler de sédition, mais de temps en temps de protestation, parce que, dit-il, un corps politique, c'est comme un corps vivant, il a besoin de temps en temps d'avoir des abcès, d'avoir du pu, et ce pu permet, en effet, de purifier le corps. Et c'est ces abcès sont plutôt un signe de bonne santé, que le corps se régule lui-même et expulse finalement les mauvaises humeurs. Et donc en politique, il en est de même, dit Machiavel, il faut que le prince puisse se rendre compte de la fièvre qui agite le corps social, et comment s'en rendrait-il compte si tout le monde est dans le calme. Bon, je ferme la parenthèse, on voit très bien que pour Bodin, qui est dans une situation d'opposition grave, pense le contraire. Voilà, l'autre inconvénient, et qui est, je crois, aussi à noter, c'est que ces factions poussent le prince à prendre parti. C'est-à-dire que les factions tentent de mettre le prince dans leur poche, mettre le roi dans de leur côté. Et donc, du coup, le prince, s'il penche trop d'un côté de la balance, va perdre son impartialité. Donc, l'idée aussi, c'est que le prince doit être impartial, au-dessus des factions, au-dessus des partialités, des groupes, des communes, des régions, etc. Sinon, il va compromettre son autorité. Or, aux yeux de Bodin, dans le système qui règne à l'époque, système juridique, il est pratiquement impossible au prince d'éviter des prises de parti, et il pense évidemment au nouveau aux guerres de religion, est-ce qu'il est catholique, est-ce qu'il est protestant, et donc il affaiblit son autorité, parce que s'il pense du côté des catholiques, les protestants vont être furieux, et s'il pense du côté des protestants, ça sera la même chose. Donc ce système de partialité et de conflit est évidemment très mauvais puisqu'il compromet le pouvoir lui-même. Alors, autre cause d'affaiblissement de la loi, et nous retrouvons un point que j'ai dit tout à l'heure, c'est le droit de résistance. Le droit de résistance à la loi. Le droit de résistance à la loi était à l'époque reconnu par un certain nombre de magistrats, reconnu, je veux dire, aux magistrats par un certain nombre de théoriciens, et comme par hasard, de théoriciens protestants. Par exemple, Théodore de Bèze, qui fut un des successeurs de Calvin, ou Duplessis Mornay, qui était un des grands chefs dirigeants protestants. Évidemment, ils ont dû élargir les positions ultimes de Calvin, puisque, comme je disais tout à l'heure, Calvin, dans la ligne de Luther, n'admettait pas de droit de résistance. Mais ils vont élargir dans la mesure où ils diront ben, « c'est un prince catholique, et s'il donne des lois qui soient contraires finalement à nos croyances, ou qu'on nous oblige, ce qui était le cas quand même à l'époque, à assister à des cérémonies catholiques, eh bien, nous aurons un droit de résistance. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. C'était pas de faire des objections de conscience au sens moderne du terme. Ça voulait dire que si les troupes viennent pour nous obliger à assister à la messe, disons en gros, eh bien, nous avons le droit de résister. Alors là-dessus, Bodin est évidemment tout à fait opposé. Et bien entendu, encore plus, si le droit de résistance était reconnu au peuple. On trouve toujours cette même angoisse, n'est-ce pas, devant l'insubordination, etc., et l'appel à l'obéissance. Alors ça peut nous paraître un peu bizarre, cet appel, mais encore une fois, il faut penser à ce contexte d'insubordination, d'incertitude, de trouble, et donc, si l'on fait en plus des justifications de l'opposition au prince et à l'ordre établi, on n'en sort plus. Et du coup, Bodin n'a pas peur de dire que ces théoriciens, c'est-à-dire ces protestants-là, sont les ennemis du prince et qu'ils travaillent à la dissolution de l'État. Et ils sont nommément désignés dans la préface du livre où Bodin explique qu'il écrit « contre ceux qui ouvrent la porte à une licencieuse anarchie qui est pire que les plus fortes tyrannies du monde. L'anarchie, pire que les plus fortes tyrannies du monde. » Ça veut dire, donc, si on comprend bien, mieux vaut supporter un tyran que de supporter l'anarchie du peuple. C'est une phrase à laquelle Hobbes souscrirait à 100%. Hobbes ajoutait cette raison. C'est que le tyran, on peut le désigner, c'est le roi ou le prince, le peuple, il est partout. Alors quand le peuple se soulève, c'est très difficile de s'opposer au peuple. N'est-ce pas, on a vu ça avec la terreur en 1792. Le prince, on peut lui couper le cou. Bon, c'est compliqué, mais on peut y arriver. Le peuple, il faut se méfier du peuple. Voilà. Ah, donc, ne donnons pas au peuple l'idée qu'il pourrait résister. Je cite encore Bodin, il conspire à la ruine de la République, non tant par malice que par ignorance des affaires d'État. Alors ça, c'est très intéressant aussi, ils ne savent pas ce que c'est que l'État. Et donc, l'idée de Bodin, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'il en est de l'État, de la souveraineté et de l'obéissance qu'on doit au prince. Alors il faut donc poser, c'est mon deuxième point, les bases de la République. Les bases d'une vraie République. Alors, il y a la première idée que jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est aussi ce qu'on trouverait chez Hobbes. Jusqu'à présent, on n'a pas compris ce qu'il en était de l'homme, nous dit Hobbes. Il faut maintenant fonder la politique sur des bases scientifiques sérieuses. Eh bien, chez Bodin, il en est de même. Et les raisons sont tout à fait intéressantes. Dans la préface, il écrit ceci, que entre un million de livres que nous voyons en toute science, déjà un million de livres, je ne sais pas nos librairies, entre un million de livres que nous voyons en toute science, à peine qu'il s'en trouve trois ou quatre de la République, donc de la science de la République, qui toutefois est la princesse de toutes les sciences. Donc la philosophie politique, princesse de toutes les sciences. On voit bien, puisque c'est elle qui assure l'ordre, qui assure le bon, et qui permet par conséquent le développement des arts, le développement du commerce, le développement de ce qu'on voudra. Donc, à peine y en a-t-il deux ou trois qui parlent de la République, princesse de toutes les sciences. Car Platon et Aristote ont tranché si court leur discours politique. Vous vous souvenez toujours de la phrase de Hobbes, c'est pas disons aussi ce Aristote un peu léger. Bon, c'est la même idée. Platon et Aristote ont tranché si court leur discours politique qu'ils ont plutôt laissé en appétit que rassasié ceux qui les ont lus. Ajoutons aussi que l'expérience depuis 2000 ans, ou environ, qu'ils ont écrit, nous a fait connaître au doigt et à l'œil que la science politique était encore, de ce temps-là, cachée en ténèbres fort épaisses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans? Le christianisme. Vous allez voir des textes tout à l'heure. C'est le christianisme qui vient bouleverser ça. Et même Platon confesse qu'elle était, cette science, si obscure qu'on n'y voyait presque rien. Et s'il y en avait quelques-uns entendus au maniement des affaires d'État, on les appelait sages par excellence, comme dit Plutarque. car ceux qui ont depuis en ont écrit à vue le pays et discouru des affaires du monde sans aucune connaissance des lois et partiellement du droit public qui demeurent en arrière pour le profit qu'on tire du particulier, ceux-là, dis-je, ont profané les sacrés mystères de la philosophie politique. Donc c'est quand même très intéressant parce que non seulement ils ont dit des sottises, non seulement ils sont, on n'est pas satisfait quand on les lit, c'est autant boire de l'eau minérale, bon, Platon, Aristote, c'est zéro, mais ils ont profané le caractère sacré de la science politique, donc le côté religieux, que nous allons voir apparaître. Donc ils étaient dans des ténèbres épaisses et 20 siècles d'expérience nous ont appris autre chose, une connaissance plus authentique. Si on continue à parler comme Aristote et Platon, on va flatter les tyrans. Et c'est Machiavel qu'il vise nommément, flatter les tyrans. Parce qu'on n'a pas la vraie science du politique. Donc Machiavel enseigne l'injustice aux princes. Et il n'a pas franchi, selon une belle formule, le gué de la science politique. Il n'a pas franchi le gué de la science politique. Il est resté en deçà. Et donc il a multiplié les justifications des ruses tyranniques. Alors en particulier, Bodin va s'en prendre ce qu'il appelle les athéistes. Nous dirions-nous aujourd'hui les athées. Les athées qui n'ont pas connu le véritable fondement de la République, des républiques, c'est-à-dire du système républicain, du système de l'État. L'impiété et l'injustice, blâmant la religion, est contraire à l'État. Alors, je vous avais donné un texte, je pense que vous l'avez. J'ai tiré des extraits de ce livre. Vous l'avez le texte? Si vous ne l'avez pas, j'ai quelques exemplaires. Alors, on peut lire le premier texte. Des vraies marques de la souveraineté. Vous n'avez pas le texte? Alors, je voulais le faire passer. J'ai des extraits et j'ai mis la référence à ce petit livre ici, pour ne pas aller dans les bibliothèques. Bon, en gros, le texte, nous allons le lire. Les anciens n'ont pas vu qu'il n'y a qu'un prince souverain par rapport auquel il n'y a rien de plus grand sur Terre, parce qu'ils n'ont pas eu non plus la connaissance du Dieu unique. Donc un lien fort entre le monothéisme biblique et la grandeur souveraine du prince. Ce que bien évidemment, ni Aristote ni Platon ne pouvaient connaître, puisque ce n'est pas la révélation de la Bible. Des vrais marques de la souveraineté, puisqu'il n'y a rien plus grand sur terre après Dieu que les princes souverains, et qu'ils sont établis de lui comme ses lieutenants pour commander aux autres hommes, il est besoin de prendre garde à leurs qualités afin de respecter et révérer leur majesté en toute obéissance, sentir et parler d'eux en tout honneur, car qui méprise son prince souverain, il méprise Dieu duquel il est l'image sur terre. On ne dit pas ici, le prince est seulement là pour assurer l'ordre, Luther. Il est là comme le lieutenant de Dieu. Donc il n'a pas seulement, si je comprends bien, j'espère bien comprendre, à exercer le glaive de justice. Celui-là méprise Dieu duquel il est l'image en terre, l'image en terre. C'est pourquoi Dieu parlant à Samuel, alors c'est un texte toujours cité, auquel le peuple avait demandé un autre prince, « C'est moi, dit-il, à qui ils ont fait injure. » Alors, si vous lisez le texte de Samuel 8, vous voyez comment on sait utiliser les textes, n'est-ce pas ? Samuel 8, c'est plutôt pour dire au peuple, « Vous voulez un prince, c'est bien un prince que vous voulez. » Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, c'est plutôt, nous, quand nous lisons, nous entendons plutôt, « Surtout ne demandez pas de prince. » Là, mais il n'est pas le seul, hein. Spinoza fait exactement la même chose sur ce texte. C'est pourquoi Dieu, parlant à Samuel, auquel le peuple avait demandé un prince, « C'est moi, dit-il, à qui ils ont fait injure. Or, afin qu'on puisse connaître celui qui est tel, c'était prince souverain, Il faut savoir ces marques qui ne sont point communes aux autres sujets, car si elles étaient communes, il n'y aurait point de prince souverain. Et néanmoins, ceux qui en ont mieux écrit n'ont pas éclairci ce point comme ils méritaient. Donc, Bodin pense qu'il est vraiment nouveau là-dessus. Or, tout ainsi que ce grand Dieu souverain ne peut faire un Dieu pareil à lui, donc le grand Dieu souverain, c'est le monothéisme, hein. Les Grecs ne pouvaient pas dire ça. Tout ainsi que ce grand Dieu souverain ne peut faire un Dieu pareil à lui, et pas d'autre Dieu que Dieu, attendu qu'il est infini, par démonstration nécessaire, aussi pouvons-nous dire que le prince que nous avons posé comme l'image de Dieu ne peut faire un sujet égal à lui que sa puissance ne soit anéantie. Donc, de même qu'il y a un seul Dieu, sans égal, sans rival, sans autre Dieu, il ne peut y avoir qu'un prince, un seul, et l'image de Dieu sur terre. Alors, pourquoi c'est une idée nouvelle? Ben, je viens de vendre la mèche, c'est que, en effet, c'est une, les raisons, la connaissance du vrai Dieu et de son unicité n'était pas acquise pour les anciens. Les anciens ne connaissaient pas le vrai Dieu, ne connaissaient pas le monothéisme, mais plus largement, ils ne connaissaient pas les lois sacrées de nature posées par le grand Dieu de nature, très sage et très juste. Alors, nous voyons ressurgir ici l'idée de nature. Mais attention, ça n'est pas la nature aristotélicienne, ce n'est pas l'état de nature de Hobbes, c'est une nature hiérarchisée. Je lis un petit texte, c'est encore le mieux, dans la préface. Il a jeté des pavés dans la page qui précède sur Machiavel, traité d'athéiste. Alors, est-ce abuser indignement des lois sacrées de nature qui veulent non seulement que les sceptres soient arrachés des mains des méchants pour être donnés aux bons et vertueux princes, comme dit le sage hébreu, donc c'est la Bible, mais encore que le bien en tout ce monde soit plus fort et plus puissant que le monde, que le bien en tout ce monde, si, soit plus fort et plus puissant que le mal. Car tout ainsi que le grand Dieu de nature, le Créateur, très sage et très juste, commande aux anges. Vous allez voir la hiérarchie. Dieu commande aux anges. Ainsi les anges commandent aux hommes, les hommes aux bêtes, l'âme au corps, le ciel à la terre, la raison aux appétits, afin que ce qui est moins habile à commander soit conduit et guidé par celui qui le peut garantir et préserver pour loyer de son obéissance, donc pour prix de son obéissance. Mais au contraire, s'il advient que les appétits désobéissent à la raison, les particuliers aux magistrats, les magistrats aux princes, les princes à Dieu, alors on voit que Dieu vient venger ses injures et faire exécuter la loi éternelle par lui établie, donnant les royaumes et empires aux plus sages et vertueux princes, ou pour mieux dire, au moins injuste et mieux entendu au maniement des affaires et gouvernement des peuples, qu'il fait venir quelquefois d'un bout de la terre à l'autre, avec un étonnement des vainqueurs et des vaincus. Donc c'est très intéressant de noter que cette référence à la nature, c'est à une référence à une nature hiérarchisée, où les uns commandent aux autres, président à la bonne marche des autres. C'est un univers hiérarchisé, où le un commande la multiplicité. Alors, aux yeux de Bodin, cette référence à la nature n'est pas évidemment le cosmos des Grecs, oui, puisqu'il s'agit déjà des anges, mais c'est une espèce de loi qui vaut en logique, par exemple, qui vaut en logique, parce que la multiplicité, à moins de se perdre, toujours l'anarchie, à moins de se disperser, elle doit être organisée sous la raison de l'unité. Donc, en logique, on cherche à unifier la diversité. Donc, c'est l'un qui gouverne la multiplicité, qui ne l'étouffe pas, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui ne l'étouffe pas, mais c'est l'un qui domine sur le multiple. C'est vrai en anthropologie. Bodin, par l'exemple de la famille, sur lequel il incite beaucoup, qui est très intéressant à lire par les temps qui courent, à la page 66. Nous entendons par ménage, il dit ménagerie, mais enfin bon, ménage, le droit gouvernement de la famille et de la puissance que le chef de famille a sur les siens et de l'obéissance qui lui est due, qui n'a point été touchée dans les traités d'Aristote et de Xénophon. Tout ainsi que la famille bien conduite est la vraie image de la République, et la puissance domestique ressemble à la puissance souveraine, aussi est le droit gouvernement de la maison le vrai modèle du gouvernement de la République. Et tout ainsi que les membres, chacun en particulier faisant leur devoir, donc chacun fait son devoir, tout le corps se porte bien, aussi les familles étant bien gouvernées, la République ira bien. Donc, non seulement il y a le modèle familial, on dirait aujourd'hui patriarcal, mais il y a surtout l'idée du pater familias qui ordonne une multiplicité. Mais la République, c'est la même chose. C'est pas l'unification, c'est pas la tyrannie, c'est l'un qui gouverne sur le reste, sur la multiplicité. C'est la vraie, et donc la famille, ou le ménage, ce qu'il appelle le ménage, c'est la véritable image de la République. Mais c'est vrai de la loi mosaïque aussi. La loi mosaïque, avec ses divers préceptes, les divers préceptes qu'elle contient, elle est unifiée sous la volonté de Dieu, mais dans une diversité. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir que très souvent, et je dirais presque toujours, Bodin s'appuie sur l'Ancien Testament. Il y aurait beaucoup à dire sur la place de l'Ancien Testament dans la pensée politique moderne. Je crois que, enfin dans ce que j'ai lu de lui, il ne cite pratiquement jamais le Nouveau Testament. C'est toujours l'Ancien Testament qui est cité. Et on pourrait lire Bossuet, on ferait sans doute la même découverte. Mais l'idée, c'est que de même que le peuple hébreu a trouvé une loi, des lois venant de Dieu et donc d'un souverain, de même, finalement, la véritable République sera de ce type. Elle sera du type du souverain qui, comme Dieu, a donné à son peuple la loi. Donc il faudra se conformer à ce modèle de souveraineté, puisque ce modèle, au fond, il est celui de la nature, c'est celui qui commande le rapport de Dieu aux hommes, qui commande le cosmos, les relations humaines, etc. Et donc, il est tout à fait clair que l'idée de souveraineté chez Bodin a une racine vétérotestamentaire. Du moins, à mes yeux, beaucoup d'interprètes, incultes religieusement, ne voient pas ce point. Je pourrais en citer, mais comme c'est le carême, je vais être gentil avec mon prochain. Il cite simplement ce texte, je cite ce passage, par exemple. Tout ainsi que ce grand Dieu souverain, il redit un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, ne peut faire un Dieu pareil à lui, attendu qu'il est infini, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, et qu'il ne se peut faire qu'il y ait deux choses infinies, par démonstration nécessaire, aussi pouvons-nous dire que le prince que nous avons posé comme l'image de Dieu ne peut faire un sujet égal à lui, que sa puissance soit anéantie. Donc, il y a une racine tout à fait clairement vétérotestamentaire dans l'idée de souveraineté. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur, évidemment, cette lecture tout à fait étrange. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, évidemment, tout cela donne une justification forte de la monarchie. Mais cependant, en même temps, Machiavel parle de République, les six livres de la République. Alors, il fait une distinction, je crois, très féconde, et qu'on va retrouver plus tard, entre la République et le gouvernement. La République, on pourrait dire, c'est le cadre. Le gouvernement, c'est la manière d'aménager le cadre. Donc, on peut avoir un principe monarchique qui va recouvrer celui de souveraineté, mais l'organisation pourra être une aristocratie qui est au pouvoir, ou éventuellement le peuple. Donc, la République, ça c'est assez intéressant, elle peut être ou monarchique, ou elle peut être populaire. Et c'est, je crois, assez fécond pour la pensée républicaine, c'est que la République ne dépend pas à proprement parler d'un système démocratique, elle peut connaître des régimes autoritaires, elle peut connaître des monarchies. Enfin, au moins aux yeux de Bodin, je crois que c'est assez intéressant. Donc on pourrait dire que la République, elle est liée à la souveraineté, elle est la structure de toute organisation politique, mais que la subordination qu'elle implique ne préjuge pas de l'organisation du gouvernement. ou des pouvoirs. Et je pense qu'on peut retenir ce point, parce que nous verrons avec Rousseau que cette souveraineté, qui chez Hobbes s'identifie en effet à la monarchie, elle va devenir populaire. C'est-à-dire qu'on va aller, vers une justification de la souveraineté du peuple, et non plus de la souveraineté du prince. Mais évidemment, pour Machiavel, pour Bodin, je veux dire, il pose en principe la possibilité, mais évidemment pour lui, ce qui compte, c'est l'identification entre la République et la monarchie. Alors, je vais juste en venir au point suivant, c'est-à-dire donc ce que je vais, la nature de la République. Bien, on peut lire le point numéro 2, puis nous nous arrêterons là. République, sur la feuille, est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Cela veut dire par conséquent que la République, mais je vais revenir là-dessus la prochaine fois, ce qu'il appelle la République, elle ne se bâtit pas sur un espace vide, elle organise une pluralité de ménages. Donc, on n'a pas ici le système, j'allais dire, luthérien, où on a le glaive d'un côté, et puis des individus à tenir en respect de l'autre, mais on a une république qui doit organiser une pluralité de ménages. Ça, c'est évidemment très important. Ça veut dire que la souveraineté est une organisation de pluralité. Le politique présuppose, pour dire les choses en d'autres termes, une société civile. Alors que chez Hobbes ou chez Luther, on a affaire à des individus que tout oppose. Et le pouvoir vient par la loi et par le glaive de la loi mettre de l'ordre dans les convoitises des uns et des autres. Ici, on a un autre système de pensée, à savoir que la souveraineté s'exerce sur une pluralité qui est déjà là et qu'elle ne se donne pas. Hein, c'est pas le prince qui marie les gens, qui se substitue au père de famille, etc. Ou la mère de famille, c'est les citoyens, c'est la société civile qui s'organise. Et le rôle du souverain est second par rapport à cela. C'est évidemment un point tout à fait essentiel. Voilà, on va s'arrêter là. Nous nous retrouvons donc, je crois, cette fois, la semaine prochaine. Bonne soirée.